Alors bonjour à toutes et à tous. On va essayer de réfléchir un petit peu sur ce thème. En fait, tout commence avec une marloquette dans la Gemara. Dans la Gemara, dans la Mitzia Daf Nun Tet, c'est une discussion qui est connue entre Rabbi Eliezer et Rabbanan. C'était un sujet d'Alacha. On appelle Tanour Shel Achnai. C'est un four qui est fait en terre cuite, mais qui est fait en plusieurs morceaux. Et il y avait une discussion pour savoir est-ce que ce four-là, par le fait qu'on le démonte, alors est-ce qu'on peut le rendre cachère ou non? Parce qu'un four comme ça, quand un objet en terre cuite, quand on le touche, il devient impur. Maintenant, la seule manière de lui enlever son impureté, c'est de le casser. Maintenant, celui-là, il se démonte et il se remonte. C'est-à-dire qu'il est fait avec des cercles en terre comme ça. Et à chaque fois, on met de la terre, du mortier pour le ressouder. Donc, si on le démonte, est-ce qu'il va être pur ou est-ce qu'il va être impur? C'est une discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbanan. Et là-bas, en vérité, qu'est-ce qui s'est passé? C'est marqué là-bas que Rabbi Eliezer, il a dit « Imalacha kamoti, minashamayim yochichu » Si la loi, elle est comme moi, alors minashamayim, du ciel, on va prouver que j'ai raison. Et à ce moment-là, il y a eu une série de miracles. Les murs du Beit HaMidrash, ils se sont penchés. La rivière qui descendait, elle a changé le cours, elle a remonté. Donc, c'est entendu que la nature, elle a suivi la vie de Rabbi Eliezer. Après, il y a une voix céleste qui est sortie. « Yatztabat kol » Amra, elle a dit « Malachem etzel Rabbi Eliezer » Qu'est-ce que vous avez vous, avec Rabbi Eliezer, c'est entendu, comment vous pouvez remettre en cause Rabbi Eliezer chez Alacha Kemoto Bechol Makom, que l'Alacha, il est comme lui, dans tous les endroits. Alors, à ce moment-là, c'est marqué qu'Amad Rabbi Yehoshua, il s'est levé, il a dit, Ivama lo bashamaim i, elle n'est pas dans le ciel. C'est entendu, la Torah, maintenant, elle n'est plus dans le ciel, elle est sur la terre. Maintenant, c'est compliqué, parce que, quand c'est marqué lo bashamaim i, qu'est-ce que ça veut dire, lo bashamaim i? Amad Rabbi Yirmiya, Shekvar nitna Torah mi'ar Sinai. Déjà, la Torah, elle a été donnée au mont Sinaï, en anu mashgichim bebat kol, on ne tient plus compte d'une voix céleste, shegvar katafta be'ar Sinaï batora, parce que tu as déjà écrit au Har Sinaï, la Torah tu l'as donnée, c'est fini. Alors comment ça fonctionne? Maintenant, il y a une discussion entre des hommes, d'accord? C'est des très très grands chachamim, c'est Rabbi Eliezer, c'est Rabbanan, c'est des gens très très puissants. Et un, il veut prouver qu'il a raison, d'accord? Alors il y a des miracles qui se passent. Maintenant, quand on mélange le miracle avec la discussion, déjà, ça devient compliqué, parce qu'on était dans une discussion, entre guillemets, intellectuelle entre des chachamim, et d'un seul coup, il y a le miracle qui apparaît. Donc maintenant, là, c'est quelque chose qui est rationnel, et ça, c'est quelque chose qui est irrationnel. Déjà, on mélange le rationnel avec l'irrationnel. Et d'un seul coup, il y a une voix céleste qui sort. Et une voix céleste, elle vient du ciel. D'accord? Donc ça veut dire que du ciel, on parle et on dit que la halacha, elle est comme Rabbi Eliezer. Donc maintenant, ça devient compliqué. Pourquoi? Parce qu'a priori, le ciel, il vient, il dit la vérité. Oui. Et en bas, on a des hommes qui disent la vérité. Alors maintenant, est-ce que la vérité, elle vient du ciel ou est-ce que la vérité, elle vient de la terre? Alors, Rabbi Yehoshua, il s'est levé, il a dit « Loba Shamayim I ». Oui, c'est-à-dire, elle n'est plus dans le ciel. On ne tient pas compte de ce qui vient du ciel. Pourquoi? Parce que maintenant, la Torah, elle est sur la terre. Mais comment ça fonctionne? Oui, si nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la vérité, oui, ou est-ce qu'on cherche à avoir raison? Un peu comme la Chavruta, oui, vous êtes en train, deux jeunes, ils sont à la yeshiva, en train de se bagarrer. D'accord? L'autre dit le pshat il est comme ça, l'autre le pshat il est comme ça, le pshat il est comme ça. Alors il y a toujours deux problèmes qui se posent. Il y a un problème, c'est que est-ce qu'on cherche à connaître la vérité ou non? Est-ce qu'on cherche à avoir raison? Je vais prouver à l'autre que j'ai raison. Maintenant, dans toutes les confrontations, c'est comme ça. Dans un couple aussi, c'est comme ça, oui. Des fois, on croit que c'est un problème intellectuel ou que c'est un problème de principe. Mais souvent, c'est un problème de midot. C'est un problème d'orgueil, c'est un problème, oui. Que je veux avoir le dernier mot, je veux. Donc est-ce que la vérité, maintenant, elle est là? Elle existe, elle est absolue ou non? La vérité, maintenant, elle est relative parce que chacun, il a envie d'avoir raison et ça n'a rien à voir. Et c'est compliqué parce que si déjà entre deux, trois, deux personnes, dix personnes, des groupes de personnes, il peut y avoir une vérité qui est plurielle, alors comment on va faire maintenant quand il y a une intervention du ciel? C'est-à-dire que le ciel, maintenant, il vient et il dit un langage, il dit une phrase. Et cette phrase-là, c'est le émet par définition. Alors quoi? Alors, ça veut dire que le émet n'est pas intéressant? Un peu comme dans les tribunaux, ouais. Le tribunal, il te dit, écoutez monsieur, la vérité on s'en fiche. Ce qui est important, c'est ce que tu peux prouver. Ce que tu ne peux pas prouver, eh ben c'est faux. Et ce que tu peux prouver, c'est vrai. Maintenant, si tu peux le prouver et que c'est faux, c'est quand même vrai, puisqu'on peut le prouver. Donc c'est quoi la vérité? Ici c'est pareil. C'est que quand on vient à Kadosh Baruch Hu, il est venu à donner la Torah. Maintenant, a priori, il a donné la Torah aux hommes. Donc si les hommes ont reçu la Torah, c'est que cette Torah, elle est adaptée aux hommes. Ou non? La Torah, en vérité, elle est dans le ciel. D'accord? Et par accident, elle est tombée sur la terre. Mais quel intérêt de nous donner quelque chose? C'est comme moi, des fois, je réfléchis. J'ai dit, les gens qui ont vécu à côté de Rabbi Shimon Bar Yochai, ouais, ils n'avaient rien à voir avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Ouais. Même Rabbi Akiba Eiger, même Rav Moshe Feinstein. J'ai parlé l'autre jour avec un Rav qui a très très bien connu Rav Moshe Feinstein. On a parlé d'un autre qui est Niftar, un grand tzadik, un grand posek. Il m'a dit, ouf, j'ai dit, bon, alors j'ai dit, c'est l'équivalent de Rav Moshe Feinstein. Il m'a dit, ouh, non, Rav Moshe Feinstein, c'était autre chose encore. Autre chose. Je dis, c'est pas possible, celui-là, il connaît tout. Ouais. Et celui-là, il dit, à côté de Rav Moshe Feinstein, il connaît rien. Alors qu'est-ce qu'il connaît, Rav Moshe Feinstein? Ouais. Et Rav Moshe Feinstein, quand tu lui parles de Rabbi Akiba Eiger, il te dit, ouf, alors qu'est-ce qu'il connaissait, Rabbi Akiba Eiger? C'est bizarre. Ça veut dire que le problème, il est de savoir si dans chaque génération, en fin de compte, on a une Torah différente. Dans chaque génération, on a une halakha différente. Mais à chaque fois, le problème, et c'est que cette halakha, elle va être vraie. C'est pour ça que c'est marqué dans le pasouk. Vayelchou, el hachamim, asher bayamim ha'em. Ouais. Ils iront chez les sages de leur génération. Alors le Ramban, il pose la question. Il dit, mais comment c'est possible que des fois, l'halakha, elle dit c'est permis, et dans une autre génération, l'halakha, elle dit c'est interdit. Mais c'est la même halakha. Des fois, dans un pays, les Ashkenazim, ils vont dire une chose, les Sfaradim, ils vont dire autre chose. Des fois, chez les Ashkenazim, on fait des halakhot comme les Sfaradim. Des fois, chez les Sfaradim, on fait des halakhot comme les Ashkenazim. Ouais. Alors tu dis, mais alors, elle est où la vérité? Toujours les gens, quand ils commencent à faire teshuva, ils sont perdus. Ils disent, attends, je comprends pas. Il y en a qui disent que c'est permis, c'est interdit. Alors dis-moi, clair, c'est comme ça, c'est assur, c'est moutard, c'est un minag, c'est une halakha, c'est midirabalan, c'est minatorah, ça vient des rabbins, ça vient de la Torah, ça vient d'où? Comment ça marche? Donc c'est ça un peu le problème. C'est que le Ramban, il dit que si tu vois que dans la génération c'est permis et dans une autre génération c'est interdit, ça veut dire que c'est la vérité qui est adaptée à la génération. Si quelqu'un il va dire, mais je ne comprends pas, la vérité c'est la vérité, elle ne peut pas changer, elle ne peut pas évoluer, elle ne peut pas s'adapter. Ouais. Et là on parle de la vérité, vérité. Ouais. Mais déjà dans la vie, d'accord, toi tu vois quelque chose, toi tu crois quelque chose pendant des années. Ouais, tu connais quelqu'un, tu dis je le connais très bien. Et un jour quelqu'un vient, tu sais, je vais te dire qui c'est ce gars-là. En vérité, c'est un escroc, c'est un tricheur, c'est un menteur. Il trompe sa femme depuis des années. Et toi, tu étais sûr. Lui, ah mais quel sadique. Donc tu vois la vérité en fin de compte. Tu crois que tu la connais, tu la connais pas. Et l'autre, le contraire, tu le vois celui-là, il n'a jamais de kippa, il n'a jamais de truc. Et après, on te raconte toutes les mitzvot qu'il a fait, tu dis. Et moi, je l'ai traité de rachat et des trucs. Donc ça veut dire qu'en vérité, c'est-à-dire que même la vérité entre guillemets humaine. Elle est plurielle, ouais. Elle est, même la vérité humaine, elle est plurielle. Alors comment la vérité divine, tu crois que tu vas la percevoir? Mais qu'est-ce que tu perçois? De toute façon, tu ne peux pas percevoir plus que ce que tu es capable de percevoir. Comme pour nous, là c'est comme si on disait la vérité mathématique d'Einstein. Pour nous, c'est de la Kabbalah. C'est de la Kabbalah, ouais. Et tu vas parler de la physique nucléaire, toi? Et tu vas parler de la médecine avec un grand professeur, un spécialiste en diabète. Tu vas dire quoi? Il y a du sucre dans le sang. Donc tu vois, sa vérité, ta vérité, elles n'ont rien à voir. Alors à plus forte raison, Kalvach Homer de Kalvach Homer, quand on parle maintenant de la vérité d'Hachem qui rentre dans le monde. C'est pour ça que c'est marqué là-bas dans la Gemara, qu'au moment où Hachem a parlé, au moment où Hachem il a commencé à s'adresser pour dire les 10 commandements, où il a commencé à transmettre la Torah, le monde s'est arrêté. Ouais. Les plantes, elles sont arrêtées de pousser, les oiseaux, ils sont arrêtés de chanter. Le monde s'est arrêté. Pourquoi? Parce que quand Hachem parle, la parole, c'est l'expression d'Hachem. Et Hachem, il est infini. Donc en vérité, c'est quoi? C'est l'infini qui rentre dans le fini. Maintenant, l'infini et le fini ne sont pas compatibles. Donc ça bloque. D'accord? Même pour donner un exemple, c'est comme les gens qui sont toujours un peu légers, un peu comme ça, un peu superficiels, et un jour tu les attrapes, tu dis, écoute, je veux parler sérieusement. Il y a des gens, ils n'arrivent pas. Ils ont besoin de la superficialité. Et des fois, quand tu vas les cadrer, tu vas les poser, ça va les braquer. Ce Shabbat, j'étais dans un Shabbat bar mitzvah, justement, et il y a un des élèves qui est venu, m'a attrapé, il m'a dit, ah voilà, je suis divorcé, maintenant je suis avec quelqu'un. Bon, mais elle a des gros problèmes, elle n'a pas confiance en elle. Alors voilà, je voulais lui dire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je dis, tu ne peux pas faire ça. Il m'a dit, pourquoi? Je dis, parce que ce n'est pas une gamine de 16 ans. C'est une fille qui a 30 ans, d'accord? qui a 27 ans, et toi, tu as 37 ans. Et toi, maintenant, tu vas lui parler comme le père, alors que tu voudrais te marier avec elle. Du coup, elle va devenir la gamine, d'accord ? Et que tu vas lui plaquer des choses qu'elle est censée savoir, parce qu'à 27 ans, c'est pas qu'on a aucun recul. Donc, elle sait qu'elle n'a pas confiance en elle, elle sait qu'elle a peur du regard des autres, elle sait qu'elle n'arrive pas à gérer. Et toi, qu'est-ce que tu vas lui imposer, cette vérité-là ? Maintenant, cette vérité-là, elle doit la comprendre. Toi, tu dois susciter chez elle. Et à la limite, tu dois plus lui donner des moyens pour régler le problème de confiance en soi plutôt que de lui imposer qu'elle a un problème de confiance en soi. Parce que quand tu vas lui mettre sur la tête qu'elle a un problème de confiance en soi, elle va être paralysée, elle ne pourra plus parler. L'air va s'arrêter de pousser, les oiseaux vont s'arrêter de chanter. Pourquoi ? Parce que la vérité, les gens ne sont pas toujours prêts à l'entendre. Premièrement. Et deuxièmement, si c'est une vérité qui provoque des traumatismes et qui provoque des névroses, alors est-ce qu'on a besoin de la dire ? Et c'est logique. Donc maintenant, tu prends ça, ce schéma-là, d'une vérité insupportable au niveau psychologique avec quelqu'un, et tu le prends la même chose en universel que la vérité d'Hachem, elle est rentrée dans la vérité humaine. Et tu compares les deux et tu dis, comment c'est possible qu'elle a pu être acceptée ? Maintenant, nous, on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il ne va pas nous donner une chose qui ne nous sert à rien. D'accord ? Donc, comment ça marche ? Maintenant, quand tu décortiques bien cette marloquette-là, quand tu la relis bien, cette discussion qu'il y avait entre Rabbanan et Rabbi Eliezer, alors là-bas, c'est marqué « Ashkeche Rabbi Nathan le Eliyahu ». Il a trouvé Rabbi Nathan, il a trouvé Eliyahu Hanavi. « Amar le mai avid kutcha berichu be'aisha ata ». Qu'est-ce qu'il est en train de faire Hachem au moment où il y a cette discussion ? Alors vous imaginez la scène, il y a Rabbi Eliezer qui est en train de se bagarrer avec les Rabbanan, d'accord ? Et un, il amène des preuves par des miracles, et l'autre, il dit qu'il y a une voix céleste qui sort et qui dit que la vérité, elle est comme Rabbi Eliezer, et il y a une bat kol qui confirme ça, et il y a Rabbi Yehoshua qui infirme et qui dit non, c'est impossible, on ne tient pas compte de ce qui se passe dans le ciel, d'accord ? Mais alors, qu'est-ce qu'il est en train de faire Hachem pendant qu'il y a cette discussion ? Donc il a demandé, Rabbi Nathan, à Eliyahu Hanavi, qui lui a demandé, qu'est-ce qu'il a répondu ? Amar le kachair, Hachem, il est en train de rire. Hachem, il est en train de rigoler. Ça le fait rigoler, cette situation. Il dit pourquoi ? Ma'asa kadosh bochou besha a'i, amar lo sameach, il s'est réjoui. Ve amar nitzruni banai, nitzruni banai. Nitzruni, ils m'ont vaincu, mes enfants. Mes enfants, ils m'ont gagné. Ça, c'est un truc très compliqué. Ouais. C'est quoi ? C'est-à-dire que genre, maintenant, le bon Dieu, tu lui as fait une surprise, tu l'as pris de vitesse. Ouais. Il ne s'attendait pas. Donc, il y a quelqu'un qui a bloqué le bon Dieu. Le bon Dieu, il dit, waouh, vraiment, col à cavode. Ouais, c'est bizarre. C'est comme si ton fils, tu lui poses une question et il te sort une réponse que, waouh, que toi, tu l'avais compris à 28, tu l'as compris à 28 ans et lui, il l'a compris à 14 ans. Ça, c'est Nitzruni Banai. Ah, alors là, vraiment, ils m'ont gagné, les enfants. Ouais. Et c'est quoi la question ? C'est quoi la réponse ? Alors, le Sefer HaChinuch, il explique là-bas dans la mitzvah Tav Tzadik Vav, il dit comme ça. Machloket azot shaita li Rabbi Eliezer im chaverav. Cette discussion qu'il y avait entre Rabbi Eliezer et ses amis, a emet aita ki Rabbi Eliezer. En vérité, la vérité, elle est comme Rabbi Eliezer. Ou ke divrei abat kol, et comme la voix céleste qui a parlé dans le au bénéfice de Rabbi Eliezer. Shi ichia kamoto qui a été dans son sens. Ve afalpi shaita a emet ito basé. Et bien que la vérité, elle était comme Rabbi Eliezer, il dit lo yardou les sof d'arto. Les gens les rabbanans qui étaient là-bas, les gens de sa génération, ils ne sont pas descendus à la fin de sa pensée. C'est-à-dire, ils n'ont pas compris le fond de sa pensée. C'est-à-dire que Rabbi Eliezer, entre guillemets, il était au-dessus de sa génération. Donc les gens n'ont pas compris la profondeur de ce qu'il disait. Velo ratsu le odot le dvarav. Donc ils n'ont pas voulu reconnaître et être d'accord avec ses paroles. Afilu achar abatkol, même après la voix céleste. Donc entre guillemets, même s'il y a une voix céleste objective, qui va dire la vérité, elle est comme Rabbi Eliezer, mais, et que l'homme, il sait que lui, sa vérité à lui, elle est subjective, parce qu'elle est limitée par ses capacités, parce qu'elle est limitée dans le temps, alors que la bat kol, elle, n'est pas soumise ni aux temporalités, ni aux opportunités, elle dit la vérité. Donc ça, c'est une vérité objective, et ça, c'est une vérité subjective. Mais quand même, ils n'ont pas voulu tenir compte. Ve'iviu ra'ya minadin akavua batora, et ils ont amené une preuve de la loi qui est fixe dans la Torah, qui est acharei rabim le'atot, qu'on doit aller d'après la majorité. Chez Tzivitanu l'alechet acharei rabim le'olam. Ben yomru, ça c'est le Sefer HaChinuch. Il dit, on doit toujours aller selon la majorité. Regardez ce qu'il dit. Ben yomru emet o afilu to'im. Même s'il se trompe. Mais on va d'après la majorité. Alors ça, c'est une chose qui est très bizarre. Parce que vous connaissez cette loi de la majorité, d'accord ? Il y a, la majorité, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que la Torah, elle a dit que quand il y a un doute, on va d'après la majorité. Maintenant, quand il s'agit d'un Beit Din, d'accord ? Donc, il y a par exemple, il y a 23 juges, d'accord, qui vont juger pour des dîners néfachotes, pour un meurtre. Donc, il faut qu'il y ait une majorité de juges qui vont dire, et on va suivre la majorité. Maintenant, quand il y en a trois, il faut qu'il y en ait deux sur trois qui vont dire pour qu'on suive la majorité. Maintenant, ça, c'est pour quoi faire ? Ça s'appelle un rov de déhot. Ça veut dire qu'il y a plus de gens qui ont pensé comme ça que comme ça. Maintenant, c'est une question. Quand on dit qu'on va d'après la majorité, est-ce que c'est parce qu'on pense que la majorité, s'il y a plus de gens qui pensent comme ça, donc c'est plus vrai ? Ou non ? Qu'en vérité, quand on est bloqué, parce qu'on ne sait pas comment faire, ouais, parce qu'il y a des gens comme ça et des gens comme ça, alors qu'est-ce qu'on fait ? On se sert de la vérité pour se débarrasser du problème. C'est-à-dire, est-ce que le fait que plus de gens pensent comme ça, ça prouve que c'est plus vrai ? Ou non ? On ne cherche pas à trouver la vérité. On veut juste trouver une solution. Maintenant, la Torah, tu sais, tu veux une solution ? Prends la majorité. Ça va ?
Ça... Il faut suivre la majorité, c'est un vote comme chez Assad. Il n'y a pas un vote. Il n'y a qu'un dictateur. Comment on fait ?
Alors, je vous dis l'idée. Non, on n'est pas dans une logique comme ça, parce qu'a priori, on parle que c'est que des tzadikim. D'accord ? On ne parle pas des réchaïm. C'est pas une... D'accord, mais je vous dis la logique. À quoi ça c'est en vérité c'est une chakira là-bas. Si vous avez l'occasion là-bas de voir Rav Shimon Shkop, ouais. En vérité, c'est quoi d'aller d'après la majorité ? Est-ce que la majorité elle me sert à savoir où elle est la vérité, ou est-ce que la majorité elle me sert à trouver une solution ? Non, c'est pas une question, c'est une formulation interrogative. On réfléchit, ouais. Pourquoi ? Parce que ça c'est Rav des hôtes, c'est-à-dire la majorité des gens. Même dans une assemblée de Goïm, ouais, quand il doit voter une loi, il dit on va d'après la majorité. D'accord ? Mais imagine, si la majorité c'est des imbéciles et la minorité c'est des gens intelligents, alors que ça me sert d'aller après la majorité ? Ça ne me sert à rien parce qu'ils sont moins intelligents. Donc ça veut dire que si on vient chercher la vérité. Restez calme. Donnez-moi une chaussure. Donc ça veut dire quoi ? Il doit y avoir du scotch cachère. On verra les cas personnels après, si vous voulez. D'accord. Mais c'est quoi l'idée ? Et ça, c'est très, très important. Ça veut dire que quand on cherche, on va d'après la majorité, est-ce que la majorité, elle est venue pour déterminer, encore une fois, la vérité, ou alors elle est venue pour nous trouver une solution ? Maintenant, ça s'appelle le rov de Déhot. Maintenant, il y a le rov de Metsiout aussi. Par exemple, quand on dit que la majorité des vaches ne sont pas très fautes, ouais, ça nous donne un rov de réalité. D'accord ? C'est comme si je trouve un morceau de viande par terre et il y a 9 magasins cachers et un magasin qui n'est pas cachère. Qu'est-ce que je dis ? La viande, elle est cachère. Mais j'en sais rien en vérité. Mais je dis, on va d'après la majorité. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que si on prend l'ensemble des probabilités, il y a plus de probabilités que ça vient de là-bas que d'ici. Mais ça, c'est la probabilité qu'elle vient de là-bas. Mais la nature de la viande elle-même, est-ce qu'elle est cachère ou non ? Donc là, je ne viens pas pour fabriquer la vérité, je viens pour trouver une solution. Parce que je peux rester 10 ans à dire peut-être que c'est ça, peut-être que c'est ça. La Torah, elle ne te casse pas. Pour ça que c'est ça la discussion. Est-ce que le rov, c'est un birour, ou est-ce que le rov, c'est un silouk ? Est-ce que le rov, c'est un éclairage ? Grâce à ça, on va savoir. Ou est-ce que le rov, est-ce que la majorité, c'est une manière de trouver une solution, de sortir du doute ? Maintenant ça... Quand on parle par rapport à une situation d'alaha ou une situation de réalité, c'est une chose. Mais quand on est dans la pensée, ouais, alors est-ce que moi je dois penser que s'il y a plus de gens qui pensent comme ça, c'est plus vrai ? Donc est-ce que l'intelligence, elle va d'après le nombre des personnes ? C'est pour ça qu'il y avait une discussion entre Beit Hillel et Beit Shammai, ouais, qui a duré 2 ans et demi. Et là-bas, le Tosfot, il pose la question là-bas dans Psachim, Davkouf Tedvav, il pose la question, il dit, mais là-bas, il y a une voix céleste qui est sortie et qui a dit que la halakha, elle est comme Beit Hillel. D'accord ? Mais on n'avait pas besoin de la voix céleste, puisqu'on sait que Beit Hillel était plus nombreux que Beit Shammai. Donc, d'après la loi de la majorité, on devait aller d'après Beth Hillel, puisqu'ils étaient plus nombreux. Et la Torah, elle a dit, on va d'après la majorité. Donc, pourquoi on a eu besoin d'une voix céleste? Il répond, à soi, une chose incroyable. Il dit que Beth Hillel, il savait qu'ils étaient plus nombreux, mais il savait que Beth Shammai était plus intelligent qu'eux. D'accord? Donc, eux, ils avaient le doute. Est-ce que je dois aller d'après l'intelligence? Mais ils sont minoritaires, mais ils sont plus intelligents. Mais nous, on est plus nombreux, mais on sait qu'on est moins intelligents. C'est-à-dire, on parle des tzadikim, encore une fois, qui ont dépassé leurs problèmes psychiatriques, l'orgueil, l'amour propre, de comment je vais me rabaisser. On ne parle pas des animaux, ouais. On parle des tzadikim. Ils sont à un niveau d'objectivité incroyable. De dire qu'eux, ils savent qu'ils sont majoritaires, mais ils savent qu'ils sont moins intelligents. Mais en vérité, la question, c'est de savoir, est-ce que la vérité, c'est quelque chose de plus intelligent? C'est-à-dire que comme il y a plus de gens qui pensent comme ça, donc ça prouve que c'est plus vrai, ou non? C'est pas le problème de l'intelligence. C'est pas le problème que la vérité, elle va selon le nombre. C'est seulement qu'il faut qu'on trouve une solution. Et la Torah, elle a dit, on compte les gens. Et s'il y a plus de gens qui pensent comme ça, on va d'après cet avis-là. Donc d'après cet avis-là, on cherche pas la vérité. Vous suivez toujours? Donc si on cherche pas la vérité, ça veut dire que quand la voix céleste, elle vient, qui elle, entre guillemets, elle est la vérité, ça nous sert, elle va pas nous rajouter quelque chose parce que c'est pas ça qu'on cherchait. Si je dis que je cherche la vérité, donc je dis l'objectivité, il n'y a pas mieux que la voix céleste. Si Dieu lui-même il me dit, l'alaha, c'est comme ça, je dis, excuse-moi, de quoi tu te mêles? Attends, mais c'est moi qui ai écrit la Torah, tu me demandes, tu m'empêches de parler à moi. C'est bizarre la situation. Maintenant, la voix céleste, elle dit que l'alaha, elle est comme Rabbi Eliezer. Rabbi Shua, il dit non. L'oba shamaim, oh, mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux la vérité? Voilà, je te la donne la vérité. Il dit, non, cette vérité-là, elle ne m'intéresse pas. Je veux une vérité humaine, je ne veux pas une vérité divine. C'est bizarre. Alors c'est ce qu'ils disent. Kelomar, achar she'em lotim mederech ha'emet, chez Rabbi Eliezer, ou aya mechuvan basé el ha'emet. Parce que Rabbi Eliezer, lui, il est exactement dans le sens de la vérité. Ve'em ba'im alav mikoach mitzvah ta Torah. Mais eux, ils sont venus avec cette force-là, de cette mitzvah de la Torah, que quoi, que la Torah l'a ordonné qu'on va d'après la majorité. Imken, si c'est ainsi, afalpi, ouais, comme ça, yesh le odot la'em bepa'am azot, ils sont obligés d'accepter qu'on va aller comme les Rabbanan, contre Rabbi Eliezer, qui dit vraiment comme leur parole, chez Tia Emet Nederet, ouais, même si c'est la vérité, elle va être rejetée, va rézer, que ilou ba'ala Emet Natsuah. C'est comme si le détenteur de la vérité a été vaincu. C'est pour ça qu'Hachem, il a rigolé. D'accord? Hachem, il a rigolé que les hommes, avec la Torah, ils l'ont, entre guillemets, ils l'ont contredit. Toi, tu veux nous dire la vérité? Mais toi, dans la Torah, tu as écrit qu'on va d'après la majorité, et c'est nous la majorité. Donc nous, on va contre toi. Et Hachem, il a été OK. Donc maintenant, la question, c'est comme ça. C'est que maintenant, est-ce que la Torah, elle est en haut, ou est-ce que la Torah, elle est en bas? C'est pour ça, par exemple, qu'on dit que Rabbi Yosef Karo, il a eu un maguide. C'est quoi un maguide? C'est que, bon, nous, on voit toujours Rabbi Yosef Karo, il a écrit le Shulchan Aruch, donc il a étudié beaucoup la Gemara, et beaucoup il a trouvé l'Halakha, et il a écrit l'Halakha. D'accord. Mais il faut savoir que Rabbi Yosef Karo, c'était aussi un très grand tzadik. Et c'était aussi un très grand kabbaliste. Maintenant, le problème, c'est où est-ce qu'elle est la distance entre la vérité de la Kabbalah et la vérité de... Pourquoi? Parce que pourquoi est-ce qu'on doit aller chez un Rav qui est tzadik? Prends un Rav qui est Chacham, le gars, il a un QI de 250, mais il est rachat. Il connaît toute la Torah entière, mais il est rachat. Il est tordu, il est voleur, il trompe sa femme, il dort avec ses élèves. Ouais. Mais il connaît toute la Torah Kula. Pourquoi tu ne peux pas en prendre de lui? Je dis non, je ne peux pas en prendre de lui. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas tzadik. Et alors? Donc s'il n'est pas tzadik, donc Hachem, il ne va pas lui envoyer le Emet. D'accord? Donc tu penses qu'il a la vérité parce qu'il est tzadik et que Hachem lui envoie le Emet. Alors si tu penses que c'est parce que Dieu lui envoie le Emet que tu l'écoutes, alors écoute Dieu qui lui envoie lui le Emet. Je sais pas si vous... Si tu dis que tu vas chez lui parce qu'il est tzadik, ouais, et pourquoi il est tzadik? Parce qu'il il craint Hachem. Tu dois aller chez un Rav qui craint Hachem, un tzadik qui craint Hachem. Maintenant l'autre, il est 6 fois plus chacham, mais il est rachat. Ouais, le gars, il prend sa voiture Shabbat, mais il connaît tout le Talmud par cœur. D'accord? Mais il connaît tout par cœur, il connaît tout, il est chacham très très fort, il est rachat. Il est chacham, mais il est rachat. L'autre, il est un peu moins chacham, mais il est tzadik. Tu dois aller chez le tzadik. Pourquoi? Parce que le tzaddik, il va avoir une inspiration qu'Hachem va lui envoyer, la halakha. Maintenant, si toi tu l'écoutes à lui, parce que lui il est plus inspiré, entre guillemets, parce que Dieu lui envoie la halakha, alors à plus forte raison que tu vas écouter Dieu, non? Alors c'est bizarre que tu dis que tu dois écouter les hommes et tu ne dois pas écouter la voix céleste. Mais la voix céleste, c'est elle qui inspire le chacham. Alors regardez comment il explique ça, le Gaon de Vilna. C'est marqué Bisha'a Sheba Akadosh Bochou Livroet Adam Arishon, au moment où Hachem a voulu créer l'homme, et met Omer al Ivra, Shekulo Sheker, Shekulo Shekarim. La vérité, la qualité de vérité, ouais, elle est venue devant Hachem, elle a dit ne crée pas l'homme. Pourquoi? Parce qu'il est entièrement mensonge. Maintenant, il y a plusieurs lectures. Soit ça veut dire, comme on dit dans le Tehilim, Kola Adam Kosev, l'homme il est menteur. Ouais. Soit on parle du mensonge, c'est-à-dire le mensonge qui est bas. Ou soit Sheker, ça veut dire quoi Sheker? C'est qu'en vérité, que le mensonge, c'est pas forcément exactement le contraire de la vérité. Oui, parce que si on dit que la vérité, elle est propre à chacun, donc le mensonge, ouais, ça veut dire que la vérité de l'un, elle est fausse pour l'autre. Ça va? Premièrement. Donc ça, c'est l'un par rapport à l'autre. Déjà, ce qui est ta vérité à toi, c'est un mensonge pour l'autre. À part ça, toi-même, tu évolues. C'est-à-dire que la vérité que tu as compris à 15 ans, et la vérité que tu as compris à 30 ans, et la vérité que tu as compris après que tu as fait les 10 ans d'Yeshiva, et la vérité que tu as compris avant de faire le même Mishnah Brura, tu le refais 10 ans après, tu dis, mais je n'avais rien compris. Pourtant, c'est l'alakha, non? Et après, tu vas chez un chacham, il va te dire, mais moi, je vais te dire comment on est, mais je suis un roi. Voilà comment on est, médaillé, tac, voilà l'alakha. Oh, oh là là. Donc, quoi, pendant 10 ans, j'ai fait un truc qui était assourd. Donc, tu vois le problème. Quand on dit que l'homme, que la vérité, elle a dit, on ne peut pas donner la Torah à l'homme parce qu'il est cool au shéker, ça ne veut pas dire, Khadij Shalom, que c'est un menteur, un tricheur, un voleur. Non, mais il est tout le temps en contradiction. Pourquoi? Parce que l'homme, il est condamné à évoluer. Et l'évolution, c'est quoi? C'est de dire que ce qu'on a fait la veille, c'était faux. Maintenant, on n'a pas besoin d'avoir cette vérité qui va durer toute la vie. On a besoin d'une vérité qu'au moment où on a la question, on a la vérité qui correspond. Comme avec l'enfant, comme ton fils à toi, il te dit, « Ouais, t'as vu comment t'étais avec mon frère, t'étais pas comme ça avec moi. » Tu dis, « Oui, mais toi, c'était ta vérité à toi, qui était adaptée à toi. Et lui, c'est une vérité qui est adaptée à lui. Lui, on va être plus cool et toi, on va être plus dur. Et c'est vrai pour toi et c'est vrai pour lui. » Et si lui, je suis dur avec lui, c'est faux pour lui. Et si toi, je suis cool avec toi, c'est faux pour toi. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle kulo shekarim. Ça s'appelle que des mensonges. Mais ce n'est pas des mensonges, encore une fois, dans le côté négatif du mensonge. Ouais. Ça s'appelle la vérité plurielle. Maintenant, le Emet, il est venu, il a dit à Hachem, mais comment tu vas donner la Torah à l'homme qui est kulo sheker? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Torah, elle est une, elle ne bouge pas, elle est tout le temps, pour l'éternité. Et maintenant, tu vas la donner à l'homme. Mais l'homme, c'est l'inverse. C'est des facettes, c'est des changements, c'est des adaptations, c'est de l'immaturité, de la maturité. Alors que ça ne va pas. Alors, il répond, « Ma asa kadosh baruch hu » Qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Le Midrash. Hein. « Natal emet » Il a pris la vérité. « Ve ishlichu la aretz » Il l'a jeté sur la terre. « Ada udirtif » C'est ça ce qui est marqué dans le pasouk. « Vatishlach emet artsa » Il a jeté la vérité sur la terre. Elle dit quoi? C'est quoi le pshat? Ta'ale emet mina aret. Maintenant, la vérité, elle doit monter de la terre. Ada udirtiv emet eret titzmach. Ouais. La vérité de la terre, elle va bourgeonner, elle va pousser. Donc, ça veut dire quoi? C'est qu'Hachem, maintenant, il a inversé la logique. La logique, elle est que la vérité, elle vient d'en haut, elle arrive en bas. Hachem, il a dit, à partir de maintenant, la vérité, elle vient d'en bas. C'est ça, l'oba shamaimi. C'est qu'Hachem, il a changé le système de repère. Maintenant, si le système de repère il est en bas, ça veut dire qu'entre guillemets, même Akadosh Baruch Hu lui-même, il est obligé de s'adapter à la vérité des hommes. Comme il y a Beddin Shel Ma'ala, Beddin Shel Mata. Par exemple, Hachem, c'est lui qui a les clés de la nature. Ouais. C'est lui qui maintient l'univers. Mais si les Chachamim, ils ont calculé le mois, ils ont calculé les. Et à cause de ça, Hachem, il va être obligé de changer les saisons, parce qu'Hachem, il va être obligé d'adapter la nature. Au Beddin d'en bas. Donc quand on dit que le Emet il est en bas, c'est pas seulement le Emet des opinions, c'est pas seulement des idées, c'est aussi que toute la réalité elle va suivre le Emet. Ça va être comme ça. Oui, ça va être comme ça. Et, ça, et des fois, il y a plusieurs exemples dans la Gemara où on voit que les Chachamim, ils ont une force d'être kovéa, de fixer dans la nature. Donc ça veut dire qu'ils fixent la nature. Je ne comprends pas la nature. C'est la réalité que Dieu fait. Et nous, dedans, on essaye de se promener. Non. Maintenant, quand on te dit que la vérité, elle vient d'en bas. Donc ce n'est pas seulement l'interprétation de la nature. Ce n'est pas seulement le regard sur l'histoire. C'est que l'histoire et la nature, elle est faite d'en bas. Maintenant, ça démarre d'en bas. Donc c'est l'homme qui crée, qui fixe les règles de la nature. Quand on l'a vu, Yahushua, il est en train de faire la guerre contre Amalek. Et ça va être bientôt Shabbat, il a arrêté le soleil. Parce que le Shabbat, il va rentrer avec la nuit. Donc il a dit, tant qu'il n'a pas fini la guerre, il n'y a pas le soleil. Le soleil ne descend pas. Je ne crois pas, écoutez, le soleil n'a rien à voir avec vos petits problèmes là, de guerre. Ouais, monsieur Amalek et monsieur Israël, ils se bagarrent. Alors le soleil s'arrête. Le soleil s'arrête. Mais je ne crois pas, mais le soleil, c'est la nature. Mais c'est toi qui crois qu'il y a le décor et qu'il y a la vérité. Le contraire. C'est que le décor, c'est que la projection de la réalité. Le décor, c'est que la projection de la vérité. Donc, si le Emet maintenant, c'est qu'on ne veut pas être Mechal el Shabbat pour Amalek, donc la guerre, elle va se finir avant le coucher du soleil. Mais une heure, c'est sur 60 minutes. Donc, cette heure-là, elle va durer 90 minutes. Elle va durer 230 minutes. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Cette heure-là, elle va durer 230 minutes. Et le soleil ne va pas tomber. Il ne va pas descendre. Et maintenant qu'on a fini la guerre, le soleil se couche. Et donc c'est la nuit. Ah mais, donc c'est cette journée-là, il n'a pas eu. Donc ça décale tout. Parce que si cette journée-là, elle n'a pas le même nombre d'heures, ça décale tout. C'est pas grave. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, et c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Et comme ça, il explique le Gaon. Il dit comme ça. Pourquoi c'est marqué que Akzourou, il a dit, la qualité de vérité, elle est venue, elle a dit que l'homme ne soit pas créé. Il dit, Mipne she'at emet. Solel ben alfe mebuchot vesvekot. La vérité, en vérité, elle est remplie de milliers de doutes. Ouais. Elle est remplie de milliers de calculs. Les gens idiots, ils ont une vérité simple. Mais les gens intelligents, ils savent que la vérité, c'est compliqué. C'est très, très compliqué. Ouais. Il dit Ve'i efchar le bnei adam likloa besichlam el nekulat haemet. Et l'homme ne peut pas aller tout au bout du point central du Emet. Parce que nous, on rêve toujours de trouver une règle qui inclut toutes les règles. D'accord? Par exemple, je vous fais un cours sur le respect de l'autre, et je vous mets toute la Torah dedans. Après, je vous fais un cours sur le Mishkan, et je vous mets toute la Torah dedans. Après, alors vous me dites, ah, je comprends pas, alors toute la Torah c'est le Mishkan, toute la Torah c'est le couple, toute la Torah c'est le cerveau humain, toute la Torah c'est la conscience. Alors quoi, ça fait combien de... Eh bien tu vois, en fin de compte, c'est quoi? Ça s'appelle un faisceau, c'est-à-dire c'est un cumul de principes généraux qui vont créer la vérité. Comme quelqu'un qui étudie la Gemara, celui qui croit que parce que dans le Rambam c'est écrit tel halakha, alors il croit que cette halakha-là, elle est rapportée dans tel Gemara, donc tout vote d'Afkouf Aleph, il croit que toute la souli, elle est là-bas. Non, en vérité, ce sujet-là, il est interactif avec toute la Torah entière. Et il faut que tu tiennes compte de ça, et de la Gemara dans Shabbat, et du Ran, et du truc, et du Marat Rayout, là-bas, donc tout vote, et d'un Diouk dans Megillah, et d'un Tosfot là-bas, pour avoir le sens ici. C'est-à-dire pourquoi? C'est pour ça qu'on dit que le Talmud, il est comparé à la mer. Parce que la mer, il y a des milliers qui sont passés, mais jamais un, il a fait un chemin. S'il y a 10 000 personnes qui passent dans la forêt, ça y est, maintenant, il y a un chemin. Mais s'il y a 10 000 bateaux qui passent dans la mer, il n'y a pas de chemin. Et les courants, ils sont sous l'eau. Et ben, c'est exactement pareil. La mer, ouais, c'est comme la Torah. Et la Torah, ça bouge. C'est quelque chose qui est vivant. Ce n'est pas Torah chez Virtav que les lettres, elles restent l'une à côté de l'autre. La Torah chez Béalpé, la Torah orale, c'est quelque chose qui bouge. Pourquoi ça bouge? Parce que ça doit être vivant. Ça doit être vivant. Maintenant, après, qu'est-ce qui se passe? C'est des allers-retours perpétuels entre la Torah écrite et la Torah orale. C'est le même Sefer Torah, d'accord? Et dans chaque génération, il y a des milliers de commentaires qui sortent. Alors, je ne comprends pas, mais comment c'est possible? C'est la même génération. C'est la même Sefer Torah. Alors, tu as compris maintenant. C'est le lien entre la Torah orale et la Torah écrite. Ben, c'est exactement pareil. C'est comme un homme et une femme. C'est monsieur et madame. Ça, c'est la Torah écrite. Mais tout ce qu'ils ont vécu ensemble, c'est la Torah orale. Tous. Tu fabriques la Torah orale. Tu crées une famille, tu crées la Torah orale. Tu crées une communauté, c'est la Torah orale. C'est-à-dire que tout ce qui se passe autour, c'est la Torah orale. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est de trouver la correspondance perpétuelle entre la Torah écrite et la Torah orale dans ta génération, et la Torah écrite et la Torah orale dans ta vie à toi. Maintenant, là, c'est à ce niveau-là qu'on peut trouver qu'il y a une logique d'adaptation. C'est-à-dire que la Torah, elle vient répondre à des problèmes personnels, à des choses que tu dois régler personnellement. Ça, c'est adapté. Pourquoi? Parce que plus tu vas regarder que la Torah, elle vient mina shamayim, plus tu vas trouver qu'elle est data iloki, plus qu'elle s'appelle nishmat ha Torah, l'essence, la neshama de la Torah, et plus tu vas dire, mais pourquoi on l'a reçue? Qu'est-ce qu'on a à voir avec ça, nous? D'accord? Et d'un autre côté, la Torah, elle répond à des problèmes de la vie de tous les jours. De la vie de tous les jours. Ouais. Tu dois savoir comment éduquer l'enfant, tu dois savoir comment te comporter, tu as vu les midot, tu as vu comment la Torah, elle a fait attention au chesed, d'accord, de Rivka, et tu as vu comment Eliezer, il a réagi, et tu as vu comment Avraham Avinu, il a évité ça, et comment on a fait attention de ne pas faire honte à la personne, et tu as vu que l'enfant, il faut lui donner ce message-là, et tout ça, c'est quoi? C'est des choses qui sont de la réalité réelle, concrète, oui. Quand la Torah, elle t'explique comment on fonctionne avec le Yetzer Hara, et comment on doit se construire, et comment on doit se développer, et comment on doit s'adapter, ça, c'est du concret. Ben, comment c'est possible que la Torah, en même temps, elle va donner, elle va te faire participer à des choses qui te dépassent de loin et que tu ne comprends rien à ce qui se passe, comme si tu es en train de travailler de l'autre côté de l'univers. Et d'un autre côté, elle est avec toi dans le quotidien. Parce que tu dis que ça, c'est assour, ça, c'est mouta, ça, ça se fait, et ça, ça ne se fait pas. Pour ça, toujours quand le Midrash ou le Tana de Bilyahu, il rapporte, il dit par exemple, Mikra, Mishnah, Talmud, ouais, Vedavar Mechoua. Il dit la Torah écrite, la Torah orale, le Talmud et d'avar mechouar. D'avar mechouar, c'est quelque chose qui n'est pas joli. Ça, c'est pas quelque chose qui est assour, parce que c'est pas une halakha, mais ça se fait pas. Ça se fait pas. C'est-à-dire que le ça se fait pas, ça fait partie de la Torah. C'est-à-dire que déjà, c'est pas assour. C'est pas assour, mais ça se fait pas. Ouais. Tu penses une chose et tu dis autre chose, ça se fait pas. Ah, ça fait pas. Bon, ça, c'est déjà gezel da'at. D'accord? Bon, tu fais honte à quelqu'un alors qu'il n'a rien à voir avec la situation, ou tu te mêles d'une chose qui ne te regarde pas. Il n'y a pas une halakha, mais ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. D'accord? Ce n'est pas une halakha, mais ça ne se fait pas. Donc ça veut dire quoi? C'est que là, la Torah, elle rentre dans ta réalité de tous les jours. Ouais? Et là, la Torah, elle va être obligée d'être adaptée à l'être humain. Et c'était ça la grande discussion. Est-ce qu'Hachem, il a donné la Torah à des anges, ou est-ce que Hachem, il a donné la Torah à des hommes? À qui il parle exactement? Ouais, c'est concret. D'accord? Toi, tu viens, tu dis les Olamot et les Shemot et les noms d'Hachem et la Kabbalah, et tu dois amener le sang à vérifier au Rav. On dit David Amelech, il était toute la journée en train de vérifier la Nida et ça, si c'est un placenta, il est complet, pas complet, est-ce qu'elle était enceinte de combien? Je dis, mais est-ce qu'il a besoin de s'occuper? Lui, il doit s'occuper des Olamot, il doit s'occuper des Gilgoulim. Qu'est-ce qu'il a besoin des Shemot? Qu'est-ce qu'il a besoin de s'occuper maintenant du sang de Nida? Non, il y a une femme qui n'est pas bien parce qu'elle est Nida. Alors il faut trouver une solution. Elle est permise, elle n'est pas permise. Est-ce que c'est vraiment la Nida? Est-ce que c'est une plaie? Est-ce que cette femme, elle est impure? Est-ce qu'elle est pure? Parce que maintenant, il y a un problème de Shalom Bayit. Maintenant, il y a un problème de stress dans ce couple. Je dis, mais qu'est-ce que tu t'en fiches du stress du couple? Moi, je te parle de l'univers. Moi, je te parle de la spiritualité. Toi, tu me parles qu'il y a une femme qui a mal au cœur parce qu'elle est loin de son mari. Mais qu'est-ce que s'en fiche? Donc, c'est là que tu vois, en fin de compte, que la frontière entre les deux dimensions, elle est nécessaire. C'est pour ça qu'on va trouver des grandes sadikim qui vont être en train de parler avec les anges, en train de parler avec Eliyahu Hanavi, d'accord? Mais le lendemain matin, ils vont aller réparer la porte de l'immeuble. Le stapler, ouais, ils l'ont attrapé, il était en train d'arranger la porte de l'immeuble. Il leur dira, vous êtes le stapler, vous êtes le gars de l'ador, vous êtes le grand de la génération. Il est en train d'arranger la porte. Il a dit, je suis copropriétaire, je suis obligé de... C'est pas comme nous, on paye le syndic, il n'y a pas... Là-bas, il y a cinq étages, il y a 10 appartements, lui, il est un des 10, donc à chaque fois qu'il rentre, il a un peu usé la porte, il a pris son marteau et il a commencé à arranger le... Mais lui, en une demi-heure, il fait que tout vote. Ouais. L'autre, il n'arrive même pas à finir un Tehilim. Il a dit, oui, c'est vrai, mais moi, je suis copropriétaire. Donc, je dois participer à arranger la truc. Elle va essayer de l'empêcher. Donc, ça veut dire que la Torah, elle veut des génies, elle veut des anges, elle veut des malachim, mais qui sont dans la réalité. C'est ça qu'il faut arriver à trouver l'équilibre. C'est pour ça que la Gemara, elle dit que « Michelomet Torah balayla », celui qui étudie la Torah la nuit, alors « Akadosh Baruch Hu Mosher Alav Chut Shel Chesed » Hachem, il va lui envoyer un rayon de bonté. C'est quoi cette Gemara? Elle est bizarre. Alors il répond, il explique comme ça. Qu'en vérité, celui qui étudie la nuit, c'est sûr qu'il étudie le jour. Donc on parle de quelqu'un qui étudie nuit et jour. Maintenant, quelqu'un qui étudie nuit et jour pendant des années, des années, des années, il ne peut pas être sociable. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui est café, que tu le rencontres dehors, que tu vois en boîte de nuit avec lui, que tu vas voir un match de foot. Non, lui, il est dans toute la journée dans sa Gemara. Donc, il ne va pas être sociable. Ouais, il ne va pas être cool. Il ne va pas être sympathique. Parce qu'il n'a pas que ça à faire. C'est de la perte de temps. Donc, comment il va pouvoir accueillir les gens? Comment il va avoir un sourire sur la figure? Alors, il faut qu'Hachem, il fait un miracle, que ces gens-là, qui sont complètement en dehors de la réalité, Hachem, il leur envoie un rayon de chesed, qu'ils ont la patience d'écouter tes lourdeurs pendant des heures. Et c'est vrai. On raconte le Rav... Oh, ils sont tous comme ça, mais le Stepeler, il avait toujours une Gemara devant lui. Toujours, toujours. Tu viens, il ne te voit même pas, tu restes. Au bout d'un moment, il te dit oui. Il ne comprend pas pourquoi tu es là. Tu dis, voilà, j'ai ma femme qui n'arrive pas à tomber enceinte, j'ai un bébé qui est malade, on a trouvé une tache bizarre sur les poumons de ma belle-mère. Ouais. Alors, tu dis, comment elle s'appelle? Alors, il prie, prie de Aslacha. Et après, il recommence. Il reprend ses Gemara. C'est-à-dire qu'il n'a rien à voir avec ça. Il n'a rien à voir. Il est dans un autre monde. Il est dans un autre système. Et c'est bizarre parce que ces gens-là, ils n'ont pas cherché à devenir des gens publics et des gens sociaux. Ils ont cherché à aller dans les profondeurs de la Torah. Et Hachem, il a dit, c'est chez eux qu'il faut aller. Une fois, quelqu'un a posé la question au Chazon Ish. Il a dit, mais pourquoi il n'y a pas des élections des tzadikim? Pourquoi on ne fait pas des élections? Il dit, voilà, qui ceux qui se présentent? Moi, j'ai fait 10 fois le Talmud, moi j'ai fait 50 fois ça, moi j'ai fait... Et après, on va faire, toi tu vas voter, on va voter, 100 personnes, 200 personnes. Ah, il a été élu à l'unanimité, le tzadik. Il a dit, non, on lui a demandé au Chazon Ish, pourquoi on ne fait pas des élections des tzadikim? Qu'est-ce qu'il a répondu, le Chazon Ish? Il a dit, le peuple, il reconnaît les tzadikim. C'est très bizarre. C'est très bizarre. Un rave que personne connaissait, d'un seul coup, les gens, ils vont chez lui. Ouais. Les gens, ils allaient chez Rav Shach. D'accord. Et après, ils ont commencé à aller chez Rav Steinman. D'accord. On va chez tel tzaddik là-bas que... Ouais. Je parle même pas les Mekoubalim et tout ça. Même des rabbanim de Sechel et tout ça. Tu te dis, mais comment ça se fait que maintenant, les gens, ils vont là-bas? C'est-à-dire qu'Hachem, il oriente. Il oriente là où tu dois aller. Et tu vas entendre une vérité. Maintenant, c'est possible que la vérité que tu auras entendue ici, tu l'aurais pas entendue ici. Donc, ça veut dire qu'il y a des chemins dans la vérité auxquels tu dois être adapté. Ben, c'est exactement pareil. Il dit, quand la personne, ici, il n'y a pas de différence entre de chercher la vérité dans ta Gemara, de chercher la vérité dans la Halakha, et de chercher la vérité avec ton mari, ou de chercher la vérité avec ton enfant, il n'y a pas de différence. Pourquoi? Parce que tu te trouves en face d'un sujet, et ce sujet-là, il est en face de toi, et toi, qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches à savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Maintenant, l'éclairage qu'on va t'envoyer de dire... Avec cet enfant-là, il faut parler comme ça ou comme ça. Ou les mots pour ne pas te prendre, pas te bloquer avec ton mari. Ou alors, de savoir est-ce que Shabbat, tu as le droit de faire ça. Alors que maintenant, on t'attend parce qu'on veut manger. Mais on ne sait pas si on a le droit parce que tu as ouvert le frigo, la lumière, elle s'est allumée. Alors maintenant, alors qu'est-ce qu'on fait avec le manger? On peut s'en servir ou non? Ouais. Mais on va mettre un coup d'épaule, on va le refermer. Mais c'est entre-temps, tu as profité. D'accord? Ou la Goya, elle a branché la plata de Shabbat. Ton fils, il l'a enlevé, lui, il l'a rebranché. Mais ce n'était pas cuit. Donc maintenant, c'est cuit avec le goy qui est allumé. Maintenant, c'est le goy qui a fait cuire. Maintenant, tu ne peux pas manger un truc qui est cuit par un goy. Tu dis, oui, mais c'est Shabbat, c'est une mitzvah. La dafina, c'est obligatoire. C'est, ouais. Comment tu vas faire? Et tu es bloqué. Tu manges, tu ne manges pas, tu as honte de manger, tu as faim. Comment tu vas faire? Tu es confronté. Ben, c'est pareil, quand tu as le torboyau, tu dis, si je lui parle mal à mon mari, il se vexe, si je dis rien, la situation, elle continue, si je trouve pas les mots, et s'il croit que c'est contre lui, tu vois, comme ça tourne dans ton ventre. Comme ça tourne dans ton ventre pour trouver l'alakha, ça tourne dans ton ventre pour trouver les mots. C'est la même chose. Donc à chaque fois, À chaque fois, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te confronter et tu vas chercher la vérité. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire deux choses. 50% tu vas réfléchir, 50% tu vas prier. Parce que des fois, on peut être très très intelligent et faire des très grosses bêtises avec intelligence. Et tu étais convaincu que tu avais raison et en fin de compte, tu t'es planté. Avec des conséquences très graves. Moi, j'ai un peu l'habitude de rencontrer les gens et tout ça, mais j'ai très très peur. J'ai très très peur. Très peur. Parce que tu fais une erreur, les gens ils divorcent. Les enfants, ils sont traumatisés. Ouais. Parce que tu n'as pas dit les bons mots, parce que l'autre, il en a profité, parce que toi, tu t'étais fait avoir, parce que tu t'es fait manipuler, parce que l'autre, elle t'a dit qu'elle était une victime. Lui, il t'a montré que c'était une menteuse. Et en vérité, toi, truc. Et après, les gens, ils viennent te voir et tu savais, vous avez fait une grosse erreur, voilà ce qui s'est passé. Et tu as peur. Maintenant, les gens, ils viennent chez toi, tu n'as rien demandé. Tu es tranquille chez toi, ils viennent chez toi à la maison, ils te disent, bon, comment on fait, comment on fait pas. Après, des fois, ils te demandent des lettres, et après, les lettres, ils les emmènent dans les tribunaux au goy. Et après, l'autre famille, elle t'appelle, elle dit, comment vous avez fait tout ça? Tu dis, moi, j'ai écrit la vérité. Mais la vérité, on s'en fiche. Voilà, maintenant, il veut garder les enfants, tu veux prendre les enfants. Et comment vous êtes mêlés de votre... Je dis, mais c'est incroyable. Les gens, ils viennent te voir. D'accord? Quand tu les aides, ils se trouvent que c'est normal. Et quand ça se retourne contre eux, ils te disent que t'es un tordu. C'est compliqué comme situation. Ouais? Tu sais pourquoi? Parce que toi, la question qui s'est posée, tu t'es adapté à la question. Mais eux, la question que Dieu leur a posée, ils ne sont pas adaptés à la question. Ils ont voulu leur vérité à eux. Or, la vérité, des fois, elle te fait plaisir, des fois, elle te dérange. C'est comme quelqu'un, il va voir tous les rabbinim du monde jusqu'à ce que quelqu'un lui dise que c'est permis. C'est une Goya, c'est une Goya. Mais on peut pas s'arranger, Rav, écoutez, bon, c'est une Goya. En plus, t'es Cohen. En plus, t'as déjà deux enfants avec elle. Mais je vais trouver un Rav. Tu vas trouver un Rav. Bien sûr que tu vas trouver un Rav. Rien que tu trouves des billets de 500, tu vas trouver un Rav. Il y aura un Rav, c'est sûr. Ah, c'est pas un Rav, c'est un grand Rav, un G-Rav, un grave. Mais tu veux, ça existe. Et dans les deux sens. J'ai dit ça plusieurs fois à des gens, mais les gens, ils croient que je rigole. Parce que comme j'ai de l'humour, les gens, ils croient que je rigole. Mais moi, je rigole très peu. J'ai dit à des gens, j'ai dit, tu sais, on a la vérité qu'on mérite. Qu'on mérite. Des deux côtés. Une fois, il est venu comme ça, c'était le jour de Rosh Hashanah. On est en plein Rosh Hashanah, et on a fait une petite afsaka après la prière de Shacharit. Et on a mangé, on a allé Shiva. Et il y a un gars qui arrive comme ça. Il dit, j'ai pas entendu la sonnette. Il voulait entendre la sonnette. Le chauffard. Alors j'ai dit, bon, j'ai vu qu'il était vraiment... J'ai dit, ben vous êtes juif et tout ça. Il m'a dit, oui, j'ai appelé un copain à moi, on a sonné le chauffard et tout ça. Je commence à parler avec lui. Le gars, il a 21 ans. Et il vient de finir Polytechnique. Polytechnique, c'est très dur. Très dur, d'accord? Maintenant, il a 21 ans. C'est-à-dire que les gens, ils finissent à 28, 29. Lui, il a fini à 21. Tu vois un peu le genre de cerveau. Juif ashkénaze, assimilé depuis trois générations. C'est que déjà en 1920, ils sont venus de Pologne, assimilés. Les parents, assimilés. Les petits-enfants, assimilés. Et lui, petit-fils. Mais une tête incroyable. Après, j'ai dit, écoute, tu sais quoi? Moi, je lui donne cours tel jour. Il est venu au cours. Et je vois, il comprend. Après, je lui dis, tiens, je vais étudier avec toi. Je le fais. Sur ce que je faisais une semaine au collège, je faisais avec lui en une heure et demie. Et le gars, il me posait des questions, comme si j'étais en train de lui raconter une histoire. Ouais. Tac, tac, tac. Et au bout d'un moment, il voit Shabbat, Kashrout, les Yom Tov, le Talit Katan. Il est venu me dire, Ria, laisse tomber. Ça suffit. Et moi, j'étais tranquille. Moi, je suis juste venu pour écouter une sonnette. Maintenant, on est en train de nous raconter des sornettes. D'accord? Il m'a dit. Alors, j'ai dit, écoute, fais ce que tu veux. J'ai dit, fais ce que tu veux. Mais sache, comme ça, je lui dis cette phrase. Je lui dis, sache qu'on a la vérité qu'on mérite. D'accord? C'est à Épinay-sur-Seine. Le gars, il habitait à Enghien. Il y a cinq ou six synagogues. Il y a des synagogues traditionnelles, il y a des synagogues un peu légers, il y a des synagogues religieuses, et il y a des synagogues et la yeshiva. Dans toutes les synagogues, par hasard, tu es tombé à la yeshiva. Et sur qui tu tombes? Sur moi. Et moi, je donne des cours et je t'enseigne à toi. Et toi, tu as une tête incroyable. Ouais. Je dis, alors réfléchis qu'on a la vérité qu'on mérite. Il m'a dit, non, laisse-moi tranquille, ça me prend la tête et tout. Bon, maintenant, je l'ai oublié. Et un jour, il y a 3-4 ans, je fais cours à Tel Aviv. Et il y a un gars qui rentre. Et je le regarde, c'est pas possible.
C'est lui.
C'est lui. Oh, je le vois, je dis alors, on se parle comme ça. Ah, Ichia, qu'est-ce que tu deviens et tout. Maintenant, moi, j'étais un jeune avraire. Ça veut dire que ça fait plus de 20, ça fait 20 ans, cette histoire. Ça veut dire lui, 42. Ça faisait 21 ans. C'est-à-dire que je ne l'ai pas revu pendant 21 ans. Maintenant, moi, entre-temps, au Hachem, j'ai eu une équipe de foot avec les remplaçants, j'ai 100 000 élèves, j'ai diffusé 1 million de CD, j'ai fait des choses. Je dis, toi, où tu en es? Où est ta femme? Il dit, non, je n'ai pas encore trouvé. J'ai 10 ans avec une Goya, après j'étais à Hong Kong, j'ai créé des trucs, j'ai fait de l'argent, j'ai fait ça. Je dis, mais où tu en es maintenant? Ben voilà. Mais la religion, ah, c'est pas évident. Et moi, j'étais dans ma tête, tu te rends compte, ce gars-là, il avait devant lui un chemin et un autre chemin. Ouais. Mais il a trouvé que ce chemin, il était trop gros. Mais quand le bon Dieu t'envoie un cerveau tellement puissant, tu vas l'utiliser pour gagner de l'argent. C'est rien pour lui, gagner de l'argent, c'est rien. Le gars, je vous dis, il a dû s'amuser, il a dû faire HEC et finance et médecine en même temps. Comme ça, tu veux. Vous avez une tête incroyable. Ouais. C'est comme si tu prends une Ferrari pour acheter le pain. Mais t'es lourd ou quoi? D'accord? Tu prends une Ferrari pour aller acheter le pain. Mais la boulangerie, elle est à 150 mètres. Tu démarres la voiture. Déjà, tu prends 15 litres. Ouais. Tu roules. Il y a un deuxième minyan à 7h30. Hein. Il y a Mincha à 7h30. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne-là, tu vois, elle, en fin de compte, elle ne s'est pas adaptée à la vérité qu'on lui a proposée. Elle a cru qu'elle n'était pas adaptée. Mais c'est 21 ans. C'est une vie. Hein. Parce que 20 trucs. Hein. Parce que le gars, il aurait fait une vraie teshuva, il aurait rencontré une certaine personne, il aurait eu d'autres enfants, il aurait eu... Où il serait maintenant? Et avec l'argent, pourquoi il n'aura pas l'argent? Il aura l'argent. Mais pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il a trouvé qu'il n'était pas adapté. Donc il fallait qu'il s'adapte. Mais c'est ça le problème. C'est est-ce qu'on est prêt, nous, à accepter que la vérité, des fois, elle dérange? Que la vérité, elle nous oblige à grandir? Hier, quand j'ai fait le Dvar Torah pour la Bar Mitzvah, j'ai dit, vous savez, la Bar Mitzvah, on l'a fait toute sa vie. Hein. Parce que le jour où tu dis, tiens, je vais vraiment faire la prière avec la Kavana, tu fais la Bar Mitzvah de la prière. Mais peut-être tu l'as fait à 32 ans. Le jour où tu vas dire à ta femme, si on va arrêter de parler des bêtises, maintenant moi je t'aime vraiment, je veux construire avec toi, je veux qu'on arrête de se prendre la tête avec des bêtises, tu fais la bar mitzvah de ton mariage. Ouais. Le jour où tu vas dire à ton fils, écoute, on va arrêter de se bagarrer pour rien, ça y est maintenant t'as 21 ans, il faut qu'on parle sérieusement, allez, pour ton avenir, qu'est-ce que tu veux, moi je vais t'aider, moi je t'aime, moi je vais t'accompagner dans ce que tu feras, je serai avec toi. Tu as fait la bar mitzvah de la relation avec ton fils. Donc toute sa vie on fait des bar mitzvot. Toute sa vie on fait des bar mitzvot. Ouais. C'est ça, bar mitzvah. Maintenant, on fait la bar mitzvah à 13 ans, mais il faudrait la faire à 35. Ben, c'est exactement pareil. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, il va y avoir une autre question et il va y avoir une autre réponse. Il va y avoir une autre question, il va y avoir une autre réponse. Et bien, cette logique-là, c'est quoi? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné, et c'est une puissance incroyable, que c'est la même Torah, d'accord? Et pourtant, il va falloir trouver une réponse adaptée à chaque personne. Et ça, c'est le Rav qui te parle. Et d'un autre côté, toi, quand tu regardes ta réalité, il faut que tu trouves une réponse qui est adaptée à ta réalité de maintenant. Que peut-être cette vérité, elle ne sera pas valable dans 10 ans. Il va falloir trouver une autre réponse qui sera aussi émette, mais elle sera émette à ce moment-là. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand la Torah, elle a donné des outils tellement puissants, tellement forts, tellement de clarté, de clairvoyance pour des choses du quotidien, c'est parce qu'en vérité, dans la vie, il n'y a pas de détails. Les gens y croient, ça c'est grave, ça c'est pas grave, ça c'est des bêtises. C'est pas vrai, au fond c'est faux. Au fond c'est faux. Comme quand tu prends une photo. Ouais. Avant tu prenais une photo, Maintenant tu prends une photo avec un appareil numérique, on te dit 20 millions de pixels, 30 millions de pixels. Mais c'est quoi 30 millions de pixels? C'est-à-dire que c'est des millions de points. Tu vois que tu croyais que c'était une photo, en vérité c'est des millions de points. Toi, tu crois que c'est un enfant, en vérité, c'est des milliers de critères. Toi, tu crois que c'est un couple, en vérité, c'est des milliers d'efforts. Toi, tu crois que c'est une maison, en vérité, c'est faux. Toi, tu crois que c'est une ambiance, c'est pas une ambiance. C'est de la douceur, de la gentillesse, de l'investissement, du lekav zechut, du positivisme, du dialogue, après de la kedusha, de la sainteté, des efforts, de la retenue. Tout ça, ça fait une ambiance. Tu fais le contraire. Encore tout à l'heure, une femme, elle m'a téléphoné d'Israël. Elle m'a dit, Rabbi Ikhya, il connaît tous les cours de Shalom Bayit par cœur. Tous les cours. Quand il appelle les gens, il leur donne des conseils. Tout ce que vous dites. Mais lui, il n'arrive pas. Il connaît tout. C'est que ce n'est pas un problème culturel. Oui. Les gens, ils disent, bon, je ne savais pas. Lui, il sait. Mais il n'est pas adapté à sa réalité. Il va faire la gueule, il va s'énerver, il va envoyer balader. Il lui dit, bah, t'es pas content, on va divorcer. Pourquoi on va divorcer? Tu connais toutes les solutions. Ça n'existe pas. Avec les solutions, il n'y a pas de problème. Mais la personne, elle n'a pas fait l'effort. Elle n'a pas fait l'effort d'adapter. C'est-à-dire qu'elle n'a pas fait coller sa connaissance avec son vécu. Donc automatiquement, elle est décalée. Et là, et ça devient gros. À la limite, elme elle me dit, Rav, je crois qu'il est schizophrène. Parce qu'elle m'a dit, peut-être qu'il est schizophrène. Parce qu'il m'a écrit une lettre d'amour. Il m'a dit, tout est de ma faute, et je suis fou, et t'es une femme extraordinaire, et t'es super, et tout ça. Et d'un autre côté, il fait la gueule, il l'envoie balader à table devant les enfants. Il dit, de toute façon, on n'est pas fait l'un pour l'autre. Tu me laisses, tu m'étouffes, tu me laisses pas vivre ma vie. L'autre, elle ne sait plus avec qui il est marié. Et moi, il me pose la question à moi maintenant. Imagine-toi maintenant. Moi, je dois te dire quoi? Moi, je vais dire, tu vas le casser, tu vas être dur avec lui, tu vas être cool avec lui, tu vas. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Bipolaire.
Vous avez compris l'idée? Ça veut dire quoi? Et ça, c'est sa vérité à elle. Parce qu'ils sont mariés, ça fait 11 ans, ils se connaissaient déjà 4 ans avant. Ouais. Le gars, il a une personnalité, il a souffert quand il était jeune. Il vient avec des détails, des pixels. Elle vient avec des pixels. Et toi, tu veux faire une seule image avec les deux. Et après, eux, ils te disent, qu'est-ce que vous pensez de notre image à nous? Maintenant, si on réfléchit comme ça, donc on trouve une chose incroyable. C'est pour ça qu'on a dit que quand tu vas voir le Rav, il est chacham et il est tzaddik. Et quand tu cherches la vérité, tu réfléchis et tu pries. Pourquoi tu as besoin des deux? Pourquoi? Parce qu'il y a une siyata d'ishmaïa, il y a une aide divine. C'est que quand la Torah elle te dit que il faut qu'il y ait de la Torah et il faut qu'il y ait de la ira, il faut qu'il y ait de la chokhma et il faut qu'il y ait de la crainte. Parce que s'il n'y a pas la crainte, où il va y avoir la siyata d'ishmaïa, où il va y avoir l'aide divine pour trouver la bonne direction, pour faire le bon choix? Même quelqu'un qui est très intelligent, qui a un cerveau extrêmement puissant, ouais, mais s'il n'a pas une aide divine, il peut faire une grosse bêtise intelligemment. Simplement parce qu'il a, Hachem lui a occulté. Ou alors, lui-même, son Yetzer Hara ou sa bêtise ou son orgueil, ils l'ont rendu aveugle. Il n'a pas vu une partie, il n'a pas tenu compte de tous les éléments. Il n'a pas eu la bonne sensibilité. Il n'a pas entendu dans la voix ce qu'il fallait entendre. Oui, il n'a pas réagi comme il fallait. Il a été trop impulsif. Il n'a pas pris le temps de voir tous les éléments. Au contraire, il a trop tardé pour réagir. C'est-à-dire qu'il y a tellement de critères et c'est tellement fin et les erreurs, elles sont tellement possibles. C'est pour ça que la Gemara a dit « Noach lo le Adam shelo nivra ». Il aurait mieux valu pour l'homme de ne pas être créé. Comme ça, c'est marqué. C'est Gemara dans ma coque. « Noach lo le Adam shelo nivra ». Il aurait mieux valu pour l'homme de ne pas être créé. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara après? Elle dit, l'Archav chez Nivra, mais maintenant qu'il a été créé, il pêche Bemarasav. Il doit analyser ses actes, il doit réfléchir à ses actes. Pourquoi? Alors le Maharsha là-bas sur place, il explique, il dit parce que dans la Torah, il y a 248 mitzvot assez et 365 mitzvot lota assez. C'est qu'il y a 365 interdits et 248 obligations. D'accord? Donc il dit, il y a plus d'occasions de se planter que de réussir. Il y a plus de pièges, d'accord? Que d'occasion de grandir. Donc c'est pour ça que Noach lo shelo nivra. Ah, ça c'était quoi? C'est dans la philosophie. Tu dis la philosophie, ouais, tu sais, la vie ne vaut pas le truc. De toute façon, la majorité des gens, ils divorcent, et puis ça se passe mal, et ils sont tous des névrosés, et regarde les enfants, ils tournent mal, et il y a la drogue, et la pornographie, et il y a Internet. Donc Noach lo shelo nivra. Ça valait mieux de ne pas être créé, c'est vrai. Ça c'est la philosophie. Mais dans le concret maintenant. Dans le concret. Arshav. Il pêche bémar à ça. D'accord ? Avant, on gagnait 20 000 euros, alors tu dis, on kiffe ça, tu hésitais entre Gucci et Kukai, ou j'en sais rien, ou Yves Saint Laurent. Maintenant, voilà, il y a 200 euros maintenant. Maintenant, il y a 50 euros. Voilà, il faut passer Shabbat. Quoi, 50 euros ? Mais tu rigoles, quoi. Rien que la Dame Hout, déjà, il y en a 80 euros. Il y a 50 euros, voilà. Tu te débrouilles. On est 8 à table, il y a 50 euros. Allez, vas-y. Achète des pommes de terre, coupe des poivrons, fais cuire des œufs. Et du sel, et va au Hachem. Tu dis, quel Shabbat ! Quel Shabbat, quel Ronek Shabbat. T'as vu qu'est-ce qu'on a mangé? Ouais. Avant, tu pensais qu'avec 2000 euros, tu ne peux pas kiffer Shabbat. Et maintenant, avec 50 euros, tu as fait un beau Shabbat. Tu sais ce que tu as fait? Tu t'es adapté. C'est ça que tu as fait. Tu t'es adapté. Ouais. Tu dis, en ce moment, ma femme, elle a une pêche du tonnerre. Bon, mais en ce moment, elle est très fragile. Tu vas t'adapter. Il y a des gens, non. Ils disent, non, non. Allez, marche, allez, arrête de pleurer. Mais qu'est-ce que ça va faire, sa gueule? Arrête de faire la gueule. Mais elle est en dépression. Des fois elle est bien, des fois elle n'est pas bien. Il y en a qui sont dans le déni. Non, elle doit être bien. Elle doit être bien. Moi je travaille, donc elle doit avoir le sourire. Mais elle n'est pas bien. Ça peut arriver. Des fois c'est les hormones, des fois c'est les hormones. Tu sais, ça bouge. Ouais. Des fois c'est la fatigue, des fois c'est les grossesses, des fois c'est les nerfs, des fois c'est le souci des enfants, des fois c'est la peur de perdre ses parents, des fois c'est la mort. Va savoir. Ben, c'est comme ça. Ben, qu'est-ce que tu fais? Tu t'adaptes ou non? Tu refuses. Je refuse. Non, je ne suis pas d'accord. Non, non. Moi je travaille, tu dois avoir le sourire. C'est comme ça. C'est. Tu dois pas être fatigué, tu dois avoir. Même un mari, il peut dire, chérie, je suis fatigué. Voilà, je suis fatigué. Allez, on sort, je suis fatigué. Il a le droit de dire, je suis fatigué ou non? Oui, non, oui, non. Pas évident. Ouais. Il peut dire, je suis fatigué. Il a le droit. Il peut dire, j'ai pas réfléchi. Il peut le dire. C'est pour ça qu'on a créé le Lekav Zohout. Et c'est pour ça. Maintenant, tu vois, cette adaptation-là que tu fais avec le couple, c'est la même adaptation que tu fais avec la Halakha. Mais en restant, bien sûr, pas dans la réforme, mais dans les. Ouais. En restant dans les critères de la halakha, mais tu vas adapter par rapport à la personne. Pour ça, même quand tu appelles le Rav, tu diras, voilà, j'ai comment ça se passe pour les bdicotes et tout ça. Et tu te dis, vous avez un kissouï roche? Vous avez la tête couverte? Vous êtes Baal Teshuvah? Vous êtes pratiquante? Dans quel quartier vous habitez? C'est qui votre Rav? Et il va te dire. Peut-être à celle-là, il va lui dire. Fais-tu me dis qu'à le premier et le septième jour. À une autre, il va lui dire, madame, c'est deux fois par jour. À l'autre, il va lui dire, madame, vous êtes obligé de vérifier ça et ça et ça. Ça dépend. Tu dis, alors quoi, là, je comprends pas, l'alaha, c'est quoi l'alaha? Eh bien, c'est ça. Ouais. Comme une femme, elle avait été voir un rave, et Sfaradim, il laisse 2 cm avec les cheveux découverts. Je ne parle pas des gens qui ont un foulard de 2 cm, les gens qui ont la tête couverte. Ouais, il laisse 2 cm. Alors cette femme-là, c'est une séfarade, elle a été voir un rave, elle a dit, rave, voilà, je vais me marier là, si Dieu veut. Donc il n'y a pas de problème pour les 2 cm, pour les séfaradim. Il a dit, toi, même pas un cheveu. Elle a dit, mais la lacha. Il dit, non, non, non. Toi, un cheveu. Parce que tu es pur, dans ta tête, tu penses à Dieu toute la journée, toi. L'autre, il se couvre la tête comme ça, parce que ça trouve ça joli, ça va bien avec ton chemisier. Laisse les 2 cm. Tu me comprends pas, alors c'est comme ça ou c'est comme ça? Ouais. Comme des gens qui voulaient faire l'alia, ils voulaient fouler. Toutes les semaines, ils allaient voir le rave. Rave, je vais partir, je vais partir. Non, non. Mais rave, vous lui avez dit non. Mais à l'autre, vous lui avez dit non, non. Un jour, il dit maintenant, il faut que tu partes maintenant. Maintenant, tout de suite, vas-y, fais tes valises tout de suite, tout de suite. Et ça, c'est pas une alha, ça, c'est encore pire. C'est une alicha. Ouais. Maintenant, pourquoi il a une siyata nishmaya pour ça? Une siyata nishmaya pour ça? Il a une aide divine pour ça, il n'a pas une aide divine pour ça. Ben, tu vois tout ce qu'il a pris avec la kavana, et qu'il a fait attention de garder ses yeux, et qu'il a fait les brachot comme il fallait, et il a fait attention à la kashrout, et que pendant 20 ans il n'a pas mangé de viande parce qu'il n'a pas trouvé un bon shohet, ouais, ça lui a donné une lecture de la Torah qui est émette. Et à part qu'il est chacham, à part qu'il a le cerveau qui va à 4000 km/h, à part ça, ouais, il a eu cette aide divine. Pourquoi ? Parce que justement, il était perpétuellement en effort d'adaptation. Donc maintenant, on l'a compris. Ce n'est pas une adaptation, Chas v'Shalom, de changer la Torah et d'adapter la Torah parce que les gens ils sont pas religieux, ou il faut être cool, il faut être tolérant, et qu'on va prendre Christine et Fatima parce qu'on est tous des créatures du ciel et qu'on est tous des créatures divines. Non. Non, tu ne touches pas une miette. Tu ne touches pas une miette. Des 613 000 votes. Ouais. Tu ne touches pas une miette. Mais, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas trouver l'embrayage pour que le mouvement il se perpétue, pour que la personne elle soit bien, elle soit heureuse, elle soit épanouie. Et elle-même, un jour, elle va venir, elle va te dire oh, « Mais Rav, je peux pas m'habiller comme ça. » « Ah bon ?» Après, elle va te dire « Mais Rav, il faut que je mette une kippa sur la tête. » « Ah bon ? » ?»« Il faut que je mette un chapeau. » « Ah bon ? Pourquoi faire ? » ?»« C'est pas la peine. T'as peur d'attraper froid ?» Non, non, non. C'est la personne. Elle évolue, elle grandit, elle voit. Et c'est la même chose. Donc tu vois que les deux lectures de la Torah, elles existent. Ouais. Il y a une Torah, ouais, Bashamaim, pour les Malachim, et elle existe aussi, même dans ce monde-ci, qu'il y a certains tzadikim qui sont toute la journée avec les Malachim. Et il y a une Torah aussi, qui est la Torah du quotidien, qui doit être très concrète et très adaptée. C'est pour ça qu'on dit que le Rav Yosef Karo, il a eu un Magid. Ça veut dire qu'il y a un ange qui est venu, qui lui a dit « Maintenant, je vais t'enseigner la Torah ». Et tous les soirs, on a vu beaucoup des tzadikim comme ça, ils avaient ça. Il y en a, c'était Eliyahu Navi. Des fois, c'était un ange qui était attribué pour eux. Et le Rav Yosef Karo, il a écrit un livre qui s'appelle Magid Mesharim, d'accord, où il a écrit les enseignements que lui a donné l'ange. Il y a un autre livre qui s'appelle Torah Min HaShamayim, des livres comme ça, que des rabbanim, ils ont appris avec un ange. Ça va? C'est bizarre, non? C'est-à-dire qu'il a un tel niveau qu'il n'y a pas de chavrut à adapter. Avec qui il va faire? Donc il faut qu'Hachem lui envoie un ange. D'accord? C'est facile. Le Gaon de Vilna, on lui a proposé un ange, il a refusé. C'est que le Gaon de Vilna, à 12 ans, il a lu le Sefer HaYetzira et il voulait fabriquer un golem. À 12 ans. Imagine à 50 ans, la tête qu'il avait. À 12 ans, on lui a dit non, non, c'est pas un truc pareil. Il voulait faire un golem. Vous pouvez acheter, ça s'appelle, vous achetez Sefer HaYetzira. Dedans, on explique comment on fait un golem. C'est ce que c'est un golem. Une créature comme ça, comme il a fait le Maharal. D'accord? Et bien, le Gaon de Vilna, avec la madriga qu'il avait, on lui a proposé un Magid, Mina Shamaim, il a dit non. Il a dit, je ne veux pas. Je veux me casser la tête tout seul. Il voulait faire l'effort, il ne voulait pas recevoir l'aide. D'accord? Maintenant, le Rabbi Yosef Karo, qui a eu un Magid, il écrit lui-même, il a dit, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'enseignements du Magid, mais je n'ai jamais tenu compte de ces enseignements pour fixer la halakha. Voilà. Mais c'est fort. C'est dur. Parce que l'autre, il te fait une lumière, un éclairage. Tu dis, mais attends, mais j'ai rien compris. Mais comment tu fais dans ta tête pour dire, ça c'est perso, et ça c'est pour... C'est pour ça qu'on dit qu'à la fin de sa vie, Rabbi Yosef Karo, il a voulu réécrire tout le Shulchan Aruch Alpi Kabbalah. Oui, parce qu'il a fait Alpi Pshat, d'après le Pshat. D'accord? Mais il a voulu réécrire tout le Shulchan Aruch selon la Kabbalah et il est mort. Vous avez compris ou non? Qui? Ouais. Oui, non mais c'est sûr que c'était un grand Mekoubal. Mais seulement c'était pas une Kabbalah qui était dévoilée. Ouais, comme tu vois des Ashkenazim qui se moquent des grands rabbinim Ashkenaz. Tu dis, non, c'est des bêtises de la Kabbalah, tout ça. Mais les étudiants cachés. Parce que chez les Sfaradim, il y a une massorette d'étudier vraiment dans le texte. Et chez l'Ashkenazim, c'est quelque chose qui est caché. On ne dit pas ça. Ils appellent Amevin Yavin. Ouais, on étudie ça. C'est la Torah cachée. D'accord? Ce n'est pas une Torah dévoilée. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important de savoir, c'est que comment quelqu'un il peut avoir un tel éclairage et ne pas en tenir compte. Comment il peut séparer qu'est-ce qui est pour le Tzibour. Pourquoi? Parce que ce qui est pour le Tzibour, ouais, la Kabbalah, elle n'est pas adaptée pour le Tzibour. D'accord? Et le Rav Olbe, il dit qu'une Torah qui n'est pas adaptée, c'est Kim'at un Sheker. Ouais, c'est comme un mensonge. Pourquoi? Parce qu'il y a le mensonge, encore une fois, le mensonge de menteur, de manipulateur. Mais il y a aussi le mensonge de l'inadaptation. C'est pas adapté. C'est comme si un enfant de 8 ans, tu lui dis, prends une décision. Alors, tu veux cette fille ou cette fille? Mais il a 8 ans. Donc, la problématique pour lui, elle est fausse. Parce qu'elle n'est pas adaptée. Ben, c'est exactement pareil. Donc, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis les deux Torahs. Il a mis une Torah qui est Torah Tavlin, la Torah qui est médicament, la Torah pour lutter contre l'Yetzer, la Torah qui te permet de manger cachère, la Torah qui te permet de ne pas faire du Lashon Hara, la Torah qui te permet d'être avec ta femme permise ou interdite. Et après, il a fait une autre Torah, une Torah de la Kabbalah, une Torah de la profondeur, une Torah des Pilpoulim, une Torah des Sugyot qui n'auront jamais lieu. Ouais, Ben Soré Roumoré, ce n'est jamais arrivé. À quoi elle sert cette Torah-là? Elle ne sert à rien. Parce que de toute façon, elle ne va jamais s'appliquer. Il dit, mais c'est les deux. C'est comme sur une échelle, d'accord ? Tu es ici dans le concret, dans la réalité, et ici dans l'absolu. Et tu fais des allers-retours. Tu vas dans l'absolu, tu reviens dans le concret. Tu vas dans l'absolu, tu vas dans le concret. Ouais, comme toi. Comme toi, tu peux regarder un enfant dans 30 ans, et tu le regardes maintenant. Maintenant, tu lui réponds à sa question de maintenant, mais toi, cette question-là, tu l'inscris dans une logique qui est dans 20 ans. Et perpétuellement, tu gardes les deux en même temps. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Tu es adapté au présent et tu es adapté au futur. Il dit, cette logique-là... Non, pas forcément. Parce qu'après, c'est une linéarité. Seulement, il faut voir le vecteur. Il faut voir que ça rentre. Il faut voir que ça rentre. Ouais. Le pchat.
Mais si la Torah absolue, elle dit, par exemple, qu'il faut mettre le tzitzit la nuit.
Ouais.
Alors, le Shohar Aruch dit, il ne faut pas le mettre. Alors,
d'accord.
C'est quoi la vérité ?
Oui, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Pourquoi ? Parce que tu dois regarder le robe de tes anagotes. C'est-à-dire que si toi, tu as bien appris déjà le pchat, d'accord ? Et que tu as commencé à étudier les notions de Kabbalah, et que par rapport à ça, tu veux avoir des anagotes dans toutes les halakhot, ouais, donc tu n'as pas un problème avec le tzitzit. Parce que tu fais déjà les 8 kavanot qu'il y a dans chaque netilat yadayim. Ouais. Et déjà, tu fais tout le kratchema alpi la truc. Et après, tu pries dans le siton du rachage depuis déjà 8 ans. Donc maintenant, tu peux mettre le talit la nuit. T'as compris la différence ? C'est pas que maintenant t'as un problème, tu fais rien, tu vas à la plage et tu dis, tiens, au fait, le talit la nuit. Quel talit la nuit ? Tu n'es même pas concerné par cette vérité. C'est pas pour toi. C'est ça l'idée. C'est-à-dire que c'est logique, pourquoi ? Parce que quand tu es en bas de la montagne, tu vois un certain paysage. Et quand tu montes en haut de la montagne, tu ne vois pas un point, tu vois tout le paysage.
Si la vérité est ça, alors c'est du
shaker. Non, ce n'est pas du shaker. Parce que c'est moi. Non, parce que c'est moi qui ne suis pas adapté à cette vérité-là.
Alors, il y a une vérité pour celui-là, il y a une vérité...
Non, c'est la même personne, mais si elle évolue, elle a une autre vérité. C'est comme si tu vas voir un généraliste. Et tu lui dis, j'ai mal au ventre. Il te dit, vous avez mangé quelque chose de pas bon. Et tu vas chez un cancérologue, il te dit, monsieur, vous avez un teint bizarre, faites une biopsie. Je ne comprends pas, mais c'est là. Alors, si je ne comprends pas, alors il y a quelque chose ou il n'y a rien. Lui, c'est un spécialiste. Et l'autre, c'est un généraliste. Donc, mais il voit la même situation, mais il ne la voit pas pareil.
Mais ce que le généraliste a dit,
c'était pas faux. Non, c'était pas faux. Parce que comment ils ont su qu'il y avait une tumeur ? Parce qu'il avait mal au ventre. Et de ça, ils ont fait les analyses, et des analyses, ils ont trouvé. Mais c'est la même chose, mais seulement ça, c'est un regard. C'est quand tu regardes au microscope, ou quand tu regardes avec les yeux. Quand tu vois avec les yeux, tu vois un tissu, et quand tu regardes au microscope, tu vois des millions de bêtes qui courent. Tu dis, quoi, je dors là-dedans, moi ? Oui, ça s'appelle les acariens. Mais tu en respires, tu en avales des millions par an. C'est quoi ? C'est dégueulasse, tu les vois. Vous avez déjà vu en photo, quand c'est grossi 200 fois, on dirait des bêtes préhistoriques. Il y en a plein les matelas, plein les lits, plein les... Tu as envie de vomir rien de le regarder. Ouais. C'est-à-dire que quand la Torah elle t'a dit qu'on est au cerf, les filles machères, Enaim Rohot, oui, mais si toi tu prends un microscope et tu regardes une fraise, mais tu vas vomir. D'accord, c'est clair. Mais la Torah elle t'a dit non, ce que tu vois pas, c'est permis. Mais comme tu vois pas les anges mauvais et tu vois pas les mazikim. Et heureusement que tu ne vois pas les pensées que les gens ils ont sur toi, la haine qu'ils ont. Imagine, tu les vois en transparent. Tu vas devenir cinglé. Donc le bon Dieu l'a dit, ce que tu vois, ce que tu ne vois pas. Ah, alors ce que tu ne vois pas, le jour où tu le vois, ça prouve que ce que tu vois, c'est faux. Non, c'est des étapes. Mais c'est bien, c'est des étapes nécessaires. Alors ce que j'ai dit seulement, c'est que ces étapes, elles sont cohérentes les unes avec les autres. Ouais, elles sont entières. Comme moi, une dame est venue hier me voir. Je les avais reçues un jour. Et j'avais fait un compromis pour les deux. Après, ça s'est retourné contre moi. Le gars, il m'a fracassé. Pendant des mois, j'ai eu mal au ventre. Et j'ai fait un papier. La femme, elle a subi un peu ce papier, bien que c'était à son avantage. Et hier, elle m'a vu, elle m'a fait une petite scène comme ça. Je lui ai dit, écoutez, madame, moi, quand j'ai eu ce problème, je ne vous ai jamais appelé. D'accord ? Je sais que ça vous a fait des soucis. Moi aussi, ça m'a fait des soucis. Mais moi, la différence entre vous, c'est que moi, je ne suis pas concerné par votre histoire. Et maintenant, moi, pendant 8 mois, j'ai eu mal au ventre, j'ai rien dit. Maintenant, vous venez aujourd'hui pour m'engueuler. Je lui dis, écoutez, madame, si déjà vous voulez savoir, maintenant, je vous dis tout. Alors, elle me dit, ah, je m'excuse. Je dis, c'est bien, c'est-à-dire que c'est le moment de dire la vérité maintenant. Si tu veux voir d'un côté, regarde, moi, j'ai les deux côtés. Toi, tu me dis d'un côté, tu me dis d'un côté, moi, j'ai vu les deux, moi. Alors, qu'est-ce que je te dis ? Donc, tu veux mon point de vue sur les deux côtés ? Ou tu veux continuer à entendre ce qui t'intéresse dans ton côté ? C'est ça le problème. C'est qu'à un moment ou un autre, tu vas voir que Atov et Hara, ça rentre dans le même cheshbon. Et tu verras que l'homme et la femme, ils avaient les deux raisons. Ouais, et que l'enfant, il a subi des deux. Ne dis pas, il crée que c'est cassé. Non, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'en vérité, la vérité, elle est globale. Maintenant, ce qui se passe, c'est que quand on évolue, on la met sur une ligne qui est verticale, mais quand on a atteint la chorma, on la met sur l'horizontale. Et le chacham, il voit la Kabbalah et le pshat en même temps. Et ça ne dérange pas. Ça va? C'est un peu ça qu'on voulait expliquer pour dire une Torah qui sera adaptée. Voilà, Chazak Baruch. Merci à vous. Alors écoutez, on peut faire minyan, hein, c'est 7h30. Alors on peut dédier le cours, s'il vous plaît, on va demander pour un... Il y a un très grand rave à Paris qui est très malade, on va demander que Hachem il envoie au Rav Chaim Zvi Ben Sarah, Refoua Shelema. Et aussi une maman qui est jeune et qui est aussi grand-maman, qui est très jeune, elle s'appelle Sarah Batchnini, qu'Hachem il envoie aussi une Refoua Shelema. Et aussi pour Eliezer Yaakov Ben Yael. Ça, c'est les trois personnes qui sont atteintes de la maladie, malheureusement. Hachem, il envoie Bekarov Yoter. Et aussi, on demande pour, beaucoup moins grave, mais que ça, c'est quand même, elle a besoin, pour Simcha Batflecha, pour Esther Batflecha, pour Pierre Messaoud Ben Kamra, et aussi pour Saada Bat Kamra. Est-ce qu'il y a d'autres personnes malades? Personne n'est malade à Milan. Donc, oui. Sandy Bat Stella. Amen. Et encore, il est malade. Isaac ben Elisa, amen. Shaul ben Linda, amen. Il faut dire amen, le amen il est plus important. Qu'Hachem leur envoie une refoua shelema parmi tous les malades d'Israël. Et Amavdil ben Chaim Lemetim, on va dédier le cours Leilou Nishmatam de mon père Avraham Shimon ben Simcha. Et aussi pour Eliyahu ben Sarah. Même des gens qui sont décédés depuis longtemps, c'est pas grave. Isaac ben Mati. Amen. Doris bat Elisa. Amen. Rina bat Elisa. Amen. C'est tout. Rachel bat Zora. Amen. Moshe ben Zara. Amen. Kachem élève leur neshamot parmi les tzadikim d'Israël. Le prochain cours c'est
7 juin.
C'est la reconnaissance. Kol hakavod.